Vous écoutez RFI, les 13h à Paris, 11h en temps universel. RFI Midi vous est présenté maintenant par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. RFI midi, 2h30 pour faire le tour de l'actualité dans le monde. À la une, 2 millions de personnes affamées à Gaza. Les mots sont ceux du chef de l'Organisation mondiale de la santé. Alors que l'armée israélienne vient de lancer une grande offensive terrestre, bombarde toujours plus intensément le territoire palestinien, dont Benjamin Netanyahou dit maintenant ouvertement vouloir prendre le contrôle. Alors comment vit-on, comment survit-on à Gaza? Nous appellerons dans un peu plus d'une heure Rami Abou Jamous, journaliste dans le territoire palestinien. Et puis nous irons en Cisjordanie, l'autre territoire palestinien occupé par Israël et par des colons, où l'on commémorait hier la Nakba, l'exode de centaines de milliers de Palestiniens après la création de l'État d'Israël.
La Nakba continue, oui. Tant que l'occupation perdure, la Nakba continue. Tant que l'injustice se maintient vis-à-vis du peuple palestinien, alors la Nakba continue. On espère que cette injustice cessera et que le peuple palestinien pourra accéder à son rêve d'État indépendant avec Jérusalem comme capitale.
Reportage de notre correspondante à écouter à midi 25 temps universel. Au sommaire également, le soulagement, un grand ouf pour les pro-européens en Roumanie. Le populiste et nationaliste Gheorghe Simion a perdu et Nicu Jordan est le nouveau président du pays.
Ce soir, c'est une victoire pour les démocraties, pour l'Europe, and we love it.
Reportage de notre envoyé spécial dans un instant dans le journal et puis édition spéciale en direct de nos studios à Bucarest dans une demi-heure. On dira aussi un mot, bien sûr, du premier tour de la présidentielle en Pologne qui se tenait également hier. Et là aussi, c'est le candidat pro-européen qui est arrivé en tête. On parlera ensuite du projet très controversé du ministre français de la Justice de construire une prison de haute sécurité en Guyane pour y enfermer les trafiquants de drogue considérés comme les plus dangereux. Pour certains, cela rappelle beaucoup trop le bagne du 19e siècle. Éclairage dans quelques minutes. Et puis on reviendra sur la politique migratoire de Donald Trump juste après le journal de 13h temps universel, sur le bras de fer notamment qu'il a engagé avec les magistrats, y compris ceux de la Cour suprême. Vous avez le programme. Bienvenue. Et tout de suite, le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
La présidentielle en Roumanie à la une, elle était surveillée de près dans les capitales européennes.
Oui, et les messages ont afflué à l'annonce de la victoire du candidat pro-européen, le maire de Bucarest, Nicu Jordan, donc vainqueur hier avec presque 54% des voix. Pour n'en citer que deux, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a salué le choix d'une Europe forte. Et pour Emmanuel Macron, la démocratie l'a emporté malgré les nombreuses tentatives de manipulation. Contre toute attente, il y a encore quelques jours, Nicu Jordan a battu le souverainiste Gheorghe Simion. Ce dernier a tout de même obtenu 46% des voix, du jamais vu en Roumanie pour une telle formation, ce qui n'empêche pas ses partisans aujourd'hui de dire leur déception. Reportage à Bucarest de notre envoyé spécial Muriel Paradon.
Place de l'Union en plein centre de Bucarest, c'est la désillusion pour certains Roumains qui avaient voté pour le candidat d'extrême droite Gheorghe Simion. Cristina, 33 ans, travaille dans le commerce.
C'est désolant. Les gens auraient pu voter pour Simion. Il aurait pu amener le pays vers de meilleures choses, de meilleures conditions de vie, des aides pour les handicapés, par exemple.
Marius, 40 ans, n'a pas voté, mais il fustige violemment Nicu Jordan. Selon lui, le nouveau président n'arrivera pas à défendre les intérêts des Roumains.
Ça se voit à sa tête qu'il est incapable de faire face aux dirigeants du monde. Il sera soumis, la tête baissée. Et dans sa campagne, il ne s'est intéressé qu'à l'Ukraine et à la Moldavie, pas à la Roumanie.
Alekou, un étudiant de 19 ans, a voté Gheorghe Simion parce qu'il partage, dit-il, ses valeurs morales. Ce qui l'inquiète aujourd'hui, c'est que les élections ont divisé la société.
La société s'est pas mal divisée. Il y aura peut-être une période de tension sociale. Et ensuite, ensemble, la politique reviendra comme avant, avec les mêmes déceptions. Je ne pense pas qu'il y aura un changement radical. Peut-être un changement infime.
Dans son discours hier, le nouveau président Nicu Jordan a promis de reconstruire une Roumanie unie. Il aura fort à faire. Muriel Paradon, Bucarest, RFI.
Et je vous rappelle qu'à 13h30, RFI vous propose une édition spéciale en direct de Bucarest autour d'Andrian Mellar.
En Pologne aussi, un candidat pro-européen est bien placé.
Oui, c'est le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, arrivé légèrement en tête hier au premier tour de la présidentielle devant le candidat soutenu par le Parti conservateur Droit et Justice. Les deux hommes s'affronteront au second tour le 1er juin. Une victoire du maire de Varsovie mettrait fin à une cohabitation difficile. Elle permettrait au gouvernement de Donald Tusk de réaliser ses promesses électorales. Dans l'actualité électorale en Europe, il y a aussi les résultats des législatives au Portugal. Elles ont vu la victoire hier du Premier ministre issu de la droite modérée, mais il n'a toujours pas de majorité suffisante pour se passer d'allié au Parlement. L'extrême droite, elle, continue de progresser. Elle atteint pour la première fois la barre des 20% des voix. Israël. Maintenant, Israël qui va prendre le contrôle de tout le territoire de la bande de Gaza. Déclaration ce matin du Premier ministre Benjamin Netanyahou en plein regain d'offensive militaire. Deux nouveaux ordres d'évacuation ont été lancés, ajoutant au désarroi de la population. Benjamin Netanyahou a aussi attribué à des pressions diplomatiques sa décision d'autoriser une reprise limitée de l'aide humanitaire. Il est en réalité sous pression de Donald Trump, le président américain qui veut obtenir une trêve, trêve à laquelle s'opposent les ministres d'extrême droite du gouvernement Netanyahou. On écoute l'analyse d'une experte de la région, Agnès Levallois, vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient.
En fait, on voit bien que Netanyahou est dans une situation très compliquée, puisque d'un côté, il veut absolument continuer à bombarder Gaza, puisqu'il n'a aucun plan politique pour le jour d'après, comme on dit. Et on le voit bien, ça fait des semaines et des semaines qu'il est simplement dans une logique militaire, qui évidemment ne conduit à rien, mais il est dans cette logique. Et d'un autre côté, on a quand même un Donald Trump qui rentre, comme vous le savez, d'une tournée dans les pays du Golfe et qui voudrait quand même faire plaisir, si je puis dire, à ces dirigeants du Golfe avec lesquels il a fait des affaires très juteuses d'un point de vue économique, et ces responsables du Golfe qui mesurent à quel point l'opinion publique dans la région est absolument choquée par ces images de ces bombardements sans fin de la bande de Gaza qui est complètement dévastée, et donc qui lui demande maintenant de contraindre Netanyahou à arrêter ce massacre, puisqu'on ne voit même pas la finalité politique de ce massacre, si ce n'est de vider la bande de Gaza de ses habitants et de la réduire à néant.
Agnès Levallois, chargée de cours à Sciences Po Paris. C'est un coup de fil à la fois très médiatisé, dont l'efficacité est loin d'être garantie. Donald Trump et Vladimir Poutine ont rendez-vous ce lundi au téléphone, un appel qui est loin de convaincre en Ukraine. Et côté russe, le Kremlin l'a jugé important, mais après des discussions d'Istanbul la semaine dernière. Direction la Tanzanie maintenant avec la comparution en justice d'un opposant arrêté le mois dernier. C'est le président du parti Chadema, accusé de trahison, un crime passible de la peine de mort en Tanzanie. Bien qu'il s'agisse d'une audience publique, des défenseurs des droits de l'homme venus en observateur sont bloqués par la police à l'aéroport de Dar es Salaam. Peu à peu, Gaël Alex, les opposants sont réduits au silence.
Voilà maintenant plusieurs heures que Hussein Khalid, avocat kényan et président de l'Organisation de défense des droits de l'homme Vocal Africa, n'a rien écrit sur son profil X. Son dernier poste, à 6h30 du matin, montrait une photo d'une salle d'interrogatoire dans l'aéroport de Dar es Salaam où il s'apprêtait à rentrer. Hussein Khalid a été intercepté dans la nuit d'hier par la police tanzanienne. À ses côtés, Hanifa Adan, défenseuse des droits de l'homme, et Willy Mutunga, ancien président de la Cour suprême kényane. Quelques heures plus tôt, alors qu'il dormait, le militant kényan Boniface Mwangi, arrivé à Dar es Salaam, reçoit également à son hôtel une visite impromptue. Il filme tout et poste sur les réseaux sociaux.
Je suis en Tanzanie et il y a des officiers devant ma chambre. Je ne sais pas pourquoi. Je dormais et ils m'ont réveillé. Ils veulent me voir, mais ils ne m'expliquent pas pourquoi. Et j'ai peur parce qu'il y a des enlèvements et des exécutions dans ce pays. Les gens vont en prison parce qu'ils résistent à la dictature de la présidente Sulu. And people in jail for resisting Sulu's dictatorship.
Ce matin, le ministre des Affaires étrangères kényan, Korir Sing'oei, a demandé sur X la libération de l'ancien président de la Cour suprême kényane en vertu des accords de la Communauté des États d'Afrique de l'Est. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
On a appris hier soir que Joe Biden, 82 ans, était soigné pour une forme agressive d'un cancer de la prostate avec métastase osseuse. Donald Trump s'est dit attristé par cette annonce. Aux États-Unis, un livre enquête doit paraître demain mardi. Il raconte par le menu le lent déclin physique et cognitif de l'ancien président démocrate au fil de son mandat.
En France, la suite du scandale de traitement des eaux minérales.
Oui, les sénateurs qui ont enquêté sur la façon dont Nestlé Waters a illégalement traité ses eaux pour les rendre aptes à la consommation, ces sénateurs persistent et signent. Oui, l'État a été défaillant et il a dissimulé selon eux des éléments dans cette affaire. Bonjour Victorien Villaume, vous êtes en direct du Sénat.
Bonjour, bonjour Gilles, bonjour à tous.
La commission d'enquête, Victorien, vient de présenter ses conclusions. Alors, quels sont précisément les reproches faits aux services de l'État ?
Alors, la commission formule de nombreux reproches aux services de l'État. Le rapporteur de cette commission d'enquête, le sénateur socialiste Alexandre Wizil, a listé les plus importantes défaillances. On l'écoute.
Malgré la fraude aux consommateurs que représente cette désinfection, les autorités choisissent de ne pas donner de suite judiciaire à ces révélations. Il est décidé de ne pas révéler au grand public cette fraude. Lorsque l'État a accepté le plan de transformation de Nestlé, il est passé de traitements qui certes étaient illégaux, mais qui d'un point de vue sanitaire étaient extrêmement robustes, à des traitements qui étaient moins robustes.
Voilà, la charge est sévère et les sénateurs pointent également du doigt, je cite, une faible mobilisation de l'autorité publique et même l'absence des ministres dans le processus décisionnel. Et je pourrais continuer longtemps comme ça puisque la conférence de presse a duré au total plus d'une heure. Attention, c'est important de le noter. Certes, le rapport dénonce des défaillances de la part de l'État, mais l'expression « scandale d'État » n'est pas utilisée dans le rapport. C'est ce qu'aurait souhaité la sénatrice écologiste Antoinette Guhl qui a travaillé sur le dossier, mais le sénateur LR qui travaillait également sur cette commission n'était pas de cet avis, Laurent Burgoa, et il n'y a donc pas eu de consensus sur le sujet. Un dernier mot, Gilles, pour vous dire que les sénateurs formulent dans leur rapport 28 recommandations au total sur les eaux minérales, notamment un meilleur étiquetage pour les consommateurs.
Merci Victorien, c'était Victorien Villaume en direct du Sénat. Devenir l'artisan d'une victoire de la droite à la présidentielle, c'est maintenant l'ambition de Bruno Retailleau, le nouveau président des Républicains. Après sa très large victoire hier face à Laurent Wauquiez, près de 75% des voix. Enfin, toujours en France, plus de 200 patrons issus des 5 continents sont reçus au château de Versailles. C'est la 8e édition du sommet Choose France, événement destiné à attirer les investisseurs étrangers. Cette année, il doit battre un nouveau record avec 20 milliards d'euros de projets nouveaux et en tout, une cinquantaine de projets seront dévoilés ou bien confirmés. Bonne journée sur RFI. Tout de suite, la suite d'RFI Midi avec vous, Anne Cantner.
Merci Gilles Moreau. L'actualité en France durant les 20 prochaines minutes, on va se pencher pour commencer sur une annonce qui passe très mal.
RFI. La France à midi.
Une annonce qui rappelle une période sombre de l'histoire de la Guyane, l'époque où ce territoire français abritait un bagne. Il est resté en fonction pendant un siècle, à partir de la moitié du 19e, et certains donc trouvent particulièrement malvenue l'idée du ministre de la Justice d'y créer un quartier de haute sécurité dans une prison pour y enfermer des trafiquants de drogue. Bonjour Paul Lancin-Spinelli.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à tous.
Il y a eu beaucoup de réactions, notamment des réactions politiques. On va peut-être d'abord dire un mot de ce projet. En quoi est-ce qu'il consiste exactement ?
Eh bien, le garde des Sceaux a en effet évoqué un quartier de cette prison pouvant accueillir 60 détenus. 49 places pourraient être réservées à des narco-bandits considérés comme, selon les mots du ministre, comme extrêmement dangereux en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique. Il faut savoir qu'en France métropolitaine, deux autres quartiers de haute sécurité ont été annoncés début mars pour lutter contre le narcotrafic. La Guyane, c'est une plaque tournante du trafic de drogue de par sa proximité avec les pays producteurs d'Amérique du Sud. Chaque année, des centaines de mules sont arrêtées à l'aéroport de Cayenne alors qu'elles tentent d'exporter des substances illicites dans leurs bagages ou dans des ballots ingérés.
Et la future prison, c'est un projet de longue date qui a été entériné en 2017 déjà.
Oui, cette construction, elle s'inscrivait dans le cadre des accords de Guyane pour désengorger la prison déjà existante de Remire-Montjoly. Ça se trouve près de Cayenne, mais en revanche, la mise en place d'un quartier de haute sécurité, c'est quelque chose qui n'avait jamais été convenu jusqu'à présent, ce qui provoque donc un vent de colère, vous l'avez dit, chez plusieurs élus locaux. Davy Riemann est député de la deuxième circonscription de Guyane. Il regrette de ne pas du tout avoir pu s'entretenir avec Gérald Darmanin en amont.
Nul n'était consulté, il a parlé de ça avec personne, il n'y a pas eu d'échange préalable à ce genre de décision. Et deux, toute la classe politique guyanaise s'est braquée parce que dans l'inconscient de la population guyanaise, ça ramène automatiquement au bagne et les gens n'en veulent pas. Il faut qu'ils fassent gaffe parce que ça faisait depuis 2017 que je n'ai pas vu une telle réaction vive et très claire de la part de la population. Ils viennent de réveiller quelque chose là, donc il faut qu'ils fassent très 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 attention à ce qu'il pourra dire par la suite. Il n'est pas question qu'on passe au bagne 2.0 parce que M. Darmanin a décidé quelque chose qui n'a jamais été discuté et jamais été validé nulle part en amont.
L'imaginaire du bagne ramène forcément les Guyanais à un passé douloureux.
Et pour comprendre cette polémique, il faut remonter à l'abolition de l'esclavage en France. C'était en 1848. Les colonies avaient alors perdu leur main-d'œuvre et leurs représentants avaient donc demandé à Paris de leur envoyer des travailleurs pour compenser, ce que le gouvernement de l'époque accepte en créant le bagne en Guyane. Et il fait d'une pierre deux coups puisque cette sanction pour les détenus doit prévenir la récidive. Saint-Laurent-du-Maroni restera donc le port d'entrée du bagne entre 1850 et 1938. Pour l'historien Franck Sénateur, Gérald Darmanin fait une erreur par méconnaissance du poids de cette histoire chez les Guyanais.
La Guyane, si on avait eu envie de choisir un endroit qui pouvait accueillir une prison de sécurité, je pense que la moindre des choses, c'était de ne pas la remettre à Saint-Laurent. Saint-Laurent, c'est trop symbolique. C'était une commune pénitentiaire, Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, si vous voulez, toute l'histoire de Saint-Laurent-du-Maroni est basée sur le bagne, puisque le maire de Saint-Laurent, jusque dans les années 46, c'était le directeur de l'administration pénitentiaire. Tout le territoire, c'était un territoire pénitentiaire. C'est pour vous dire que ça, ça laisse forcément des marques.
Et l'ouverture de cette future prison à Saint-Laurent-du-Maroni, elle est prévue pour 2028.
Merci Paul Lancin-Spinelli.
RFI Midi.
Comme chaque jour, l'entretien politique. Aujourd'hui, Clotilde Dumais, vous recevez Vincent Jeanbrun, député Les Républicains du Val-de-Marne et porte-parole du groupe Droite Républicaine à l'Assemblée nationale.
Bonjour Vincent Jeanbrun.
Bonjour.
Le principal parti de la droite française a donc un nouveau chef, puisqu'après 3 mois de campagne, les adhérents ont finalement choisi hier un nouveau président pour les Républicains. Il s'agit de Bruno Retailleau, largement élu, hein, avec 74,3% des voix contre 25,7% pour son rival, Laurent Wauquiez, que vous avez soutenu. Quel est votre sentiment aujourd'hui? On imagine forcément un petit peu de déception, Vincent Jeanbrun. Est-ce qu'il y a aussi le sentiment quand même d'une peut-être une nouvelle impulsion pour votre parti?
Oui, vous le résumez très bien dans la question. D'abord, il y a effectivement, après une très très belle campagne de Laurent Wauquiez, une campagne à la Chirac où il a sillonné tout le pays, forcément une petite déception en voyant le score. Et en même temps, c'est certain que si on dézoome et qu'on regarde l'avenir de notre famille politique, cette campagne, parce qu'elle a fait, elle a mis en compétition deux hommes de talent et de qualité, a créé de l'émulation, a créé un intérêt. Et on a réussi en quelques mois à tripler le nombre d'adhérents de notre famille politique, plaçant maintenant la droite républicaine en position d'être le premier parti de France. Et ça, c'est déjà une première bonne nouvelle. Et puis, au fond, ce score sans appel de Bruno Retailleau permet de définir une ligne claire et la démocratie interne a parlé. Donc, il faut maintenant qu'on soit unis et rassemblés pour pouvoir défendre les valeurs qui sont les nôtres. Et c'est là aussi une bonne nouvelle, et je suis convaincu qu'on va se mettre au travail très rapidement pour faire en sorte de capitaliser sur cet engouement nouveau.
Le rassemblement, c'est clair que les deux candidats l'ont évoqué hein, dès hier, y compris le perdant Laurent Wauquiez, qui a quand même redit hein, son souhait de porter un projet de rupture, et nous ne pourrons pas le faire, a-t-il déclaré, si nous sommes dilués dans le macronisme. Ça s'adresse quand même directement à Bruno Retailleau, qui lui fait partie du gouvernement, on le rappelle, de François Bayrou, il est ministre de l'Intérieur, et qui ne compte pas démissionner. La question a été tranchée par les militants, selon lui. Est-ce que vous comprenez cette position, Vincent Jeanbrun, ou bien est-ce que Bruno Retailleau devra, à un moment donné, quitter le gouvernement?
Mais je pense que l'un et l'autre, Laurent Wauquiez comme Bruno Retailleau, ont toujours été clairs. Laurent Wauquiez dit « Nous ne pouvons pas être la béquille du macronisme. Nous sommes dans ce gouvernement, nous avons été d'accord pour faire partie du socle commun parce qu'il fallait faire barrage à la LFI et à toute la gauche mélenchonisée. Maintenant, ça ne veut pas dire avaler des couleuvres, ça ne veut pas dire renier nos convictions. » Et là-dessus, Bruno Retailleau a aussi toujours été très clair en disant « Moi, je suis ministre de l'Intérieur,
ce que laissait entendre Laurent Wauquiez,
j'ai ma liberté de ton. » Non, le sujet maintenant pour nous, c'est d'être en capacité de justement aller au bout de cette logique et faire en sorte que si jamais les combats qui sont ceux de Bruno Retailleau, ministère de l'Intérieur, mais qui pourraient être ceux d'Annie Genevard à l'agriculture ou de Yannick Neuder à la santé, si nous ne sommes pas entendus, alors il faudra en tirer toutes les conséquences. Mais je crois que Bruno Retailleau l'avait dit il y a quelque temps.
Mais en tirer toutes les conséquences, qu'est-ce que ça signifie? On sait que vous êtes donc député, que Laurent Wauquiez est chef des députés.
Prenez un exemple.
Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à une censure du gouvernement si jamais vous n'obteniez pas ce que vous souhaitez?
Nous, on a dit très clairement que, et là je parle pour les députés, que nous ne rentrerions pas dans une logique de censure parce que nous ne voulons pas de chaos. Mais il y a la censure et après il y a la question du soutien ou non au gouvernement et la question de voter ou pas les textes. Si on prend l'exemple de la proposition du ballon d'essai du ministre de l'économie de voir si on pouvait aller toucher au pouvoir d'achat des retraités en retouchant, vous savez, à l'abattement général à la base qu'ils ont sur leur retraite, là typiquement ce serait un casus belli, là ce serait une ligne rouge infranchissable. Et là, Laurent Wauquiez l'a déjà exprimé, les députés du groupe également, nous ne voterions pas de texte qui propose des augmentations d'impôts ou qui baisse le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent ou de ceux qui ont travaillé toute leur vie.
Et donc, ça mettrait en difficulté un gouvernement dans lequel est Bruno Retailleau pour le moment.
Exactement. Et là, à ce moment-là, je pense que le parti politique, au-delà des députés, aura vocation à prendre une position. Mais là, nous n'y sommes pas encore. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait cette liberté de ton qu'a tant revendiqué Laurent Wauquiez pour que, justement, on puisse prendre les devants et faire en sorte d'afficher un message tellement clair et tellement ferme que le gouvernement de Monsieur Bayrou n'ait pas la tentation de toucher une fois de plus à la fiscalité et au pouvoir d'achat des Français. Donc, vous voyez, c'est un combat dans cette majorité éclectique, dans ce gouvernement lui aussi éclectique, avec ce socle commun qui n'est pas une coalition, où chacun va poser un certain nombre de lignes. Et nous, nos lignes, elles sont claires. Je pense que Bruno Retailleau les connaît et que, justement, il va faire en sorte de les faire respecter au sein du gouvernement. Et comme c'est un homme d'honneur, sinon il en tirerait toutes les conséquences.
Donc pas de décision à prendre dans l'immédiat. On a un petit peu la sensation effectivement qu'on repousse un petit peu l'échéance également pour la présidentielle de 2027. Au sein des Républicains, on dit depuis le début que ce congrès et l'élection du président LR n'aura pas forcément d'influence sur la présidentielle 2027. Mais quand même, quand on voit le résultat assez écrasant de Bruno Retailleau sur Laurent Wauquiez, est-ce que ça le met pas quand même en position de favori pour la prochaine présidentielle?
Non, mais ça a évidemment une influence, parce que ça pose à l'instant T des rapports de force. Mais encore une fois, nous, au sein de la droite républicaine, on ne se trompe pas d'élection. Là, il s'agissait de désigner un président de notre formation politique qui aura une mission très difficile, celle de redresser notre formation politique qui a été tant abîmée, et notamment par la trahison d'Éric Ciotti. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est reposer les bases de notre famille politique, de notre mouvement politique, et puis ensuite d'organiser ce à quoi les deux candidats s'étaient engagés, un système de départage pour que les militants de notre famille politique puissent désigner le candidat.
Et justement, donc, là-dessus aussi, il y a plusieurs formes qui sont possibles, plusieurs formes envisageables, et vous ne semblez pas tous d'accord. Il y en a qui veulent plus ou moins ouvrir une primaire, d'autres qui voudraient que ce soit seulement les adhérents LR. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un risque de rupture?
Il va falloir en débattre très vite, puisqu'à l'heure où on se parle, nos statuts prévoient toujours une primaire ouverte où chacun, chaque Français, chaque électeur peut venir voter, y compris des électeurs de gauche par exemple, comme la dernière fois. Et donc la question va être de réformer rapidement nos statuts. Pour ce faire, il va y avoir un débat en interne. Je pense qu'il serait utile de demander, là encore une fois, aux adhérents de trancher la question pour savoir si on est sur un système
de
départage en
interne. Donc de trancher sur une primaire pour savoir comment la primaire va être organisée. Une primaire avant l'heure en quelque sorte. Une sorte de référendum.
Nous, primaire pour nous, c'est la primaire ouverte, et on parle de congrès en interne pour un départage interne. Mais effectivement, il faut que les adhérents se prononcent en disant nous, on veut un départage interne. Dans ce départage interne, qui a le droit d'y participer? Comment? Etc. Ça fait partie d'une démocratie saine à l'intérieur d'un mouvement, et ce sera un des chantiers très très rapide là qui s'annonce pour nous, pour justement savoir comment la droite, une fois remis sur ses bases, va pouvoir avoir un candidat pour porter nos valeurs dans le débat présidentiel.
Le chantier encore plus rapide qui arrive, Vincent Jeanbrun, ce sont les municipales dès l'an prochain. Là aussi, quand même, le parti va être confronté à certaines questions. Quelle stratégie adopter? Est-ce qu'on va plutôt aller très à droite, un petit peu comme l'a défendu Laurent Wauquiez? Est-ce qu'on peut envisager à l'inverse un éventuel rapprochement avec les macronismes. Ce serait peut-être plutôt le cas de Bruno Retailleau.
Écoutez, ça fait partie des discussions qu'on va avoir. Moi j'ai soutenu Laurent Wauquiez qui, effectivement, était très clair sur ce point. Nous, l'enjeu, c'est de faire revivre la droite et la pensée politique de droite. Donc, bien sûr que les municipales sont un temps où on rassemble. En général, le maire est d'abord le candidat pour sa ville avant d'être le candidat d'un parti politique. Ça n'empêche qu'effectivement, discuter avec d'autres formations politiques, même négocier, pourquoi pas, mais sans jamais se diluer ou sans jamais se compromettre.
Mais c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on revient toujours un petit peu au même problème. Vincent Jeanbrun, vous êtes toujours un petit peu coincé entre les macronistes, l'extrême droite. Comment est-ce que vous pourriez vous différencier depuis tout le temps que vous essayez de le faire?
C'est tout l'enjeu qui est devant nous, mais moi j'ai une conviction personnelle, c'est qu'on se distingue quand on a des résultats. D'ailleurs,
donc
vous voyez
Bruno Retailleau,
aujourd'hui,
par exemple,
la famille politique qui a le plus grand nombre d'élus locaux, c'est la nôtre, parce que à l'échelle d'une ville, d'une mairie ou d'une agglomération, on est, vous savez, on dit à portée d'engueulade, mais surtout on est à portée d'observation. Les citoyens se rendent bien compte que quand ils font confiance à des élus de notre famille politique, il y a des résultats derrière.
Mais
en termes de bonne gestion,
dans quelle thématique en particulier? Bruno Retailleau a beaucoup axé sur la sécurité, l'immigration. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses?
Et c'est pour ça qu'il est très important qu'on puisse avoir des résultats en la matière. Et là, vous soulignez un point aussi très important, c'est le fait que on puisse parler de tout. C'est-à-dire que Bruno Retailleau incarne la question de l'autorité, du régalien, et clairement, il a été plébiscité pour ça. Mais il va falloir, pour préparer l'élection présidentielle, parler de tout. C'est vrai de questions de santé, où là-dessus, il y a un défi qui est considérable. C'est vrai pour la question agricole, c'est vrai pour la question de l'alimentation, c'est vrai pour la question de l'éducation, de la transition écologique.
Quel programme
on a des débats de
retenir.
Fond à avoir.
Merci beaucoup, Vincent Jeanbrun, d'avoir été avec nous sur RFI.
Je vous en prie. Merci.
Vincent Jeanbrun, député du Val-de-Marne et porte-parole du groupe Droite Républicaine à l'Assemblée nationale. Entretien avec vous, Clotilde Dumaire, trouvé sur internet RFI.fr.
RFI, la France à midi.
Le débat sur la délicate question de la fin de vie se poursuit en France. Les députés ont approuvé durant le week-end la création d'un droit à l'aide à mourir et précisé que les malades devraient s'administrer eux-mêmes la substance létale s'ils le peuvent. Un moyen de tenir compte des réticences de certains médecins. Laurence Théo est allée rencontrer l'un d'entre eux et des proches de patients.
Je m'adresse à vous en tant que futur défunt, au terme d'un long parcours de soins lié à une maladie mortelle et incurable.
Atteint d'une tumeur au cerveau, Nicolas Menet est mort à 44 ans, le 4 février 2023, à l'hôpital. Dans cette vidéo posthume, on voit marcher ce colosse dans la campagne ardéchoise. Un bâton de montagnard guide ses pas. Il s'adresse aux parlementaires qui débattent actuellement sur la fin de vie.
Je ne veux pas quémander l'autorisation de mourir auprès des médecins. Je ne veux pas souffrir inutilement. Je veux choisir le moment, le lieu et l'endroit. Personne ne peut juger s'il est trop tôt pour moi ou trop tard, si je suis encore en bon état ou pas. Je dois être le seul à pouvoir juger de mes souffrances psychiques si j'en ai encore la possibilité cognitive.
Nicolas Menet militait pour la liberté de choisir l'euthanasie, autrement dit que le médecin ait le droit d'administrer la substance létale. Le texte prévoit actuellement cette possibilité, à condition que la décision soit collégiale et que le praticien soit volontaire. Chef de service d'une unité de soins palliatifs pendant 25 ans, Claude Grange est lui contre l'euthanasie. Selon lui, ce n'est pas au médecin de donner la mort.
Ma seule compétence, ma seule légitimité, c'est d'avoir accompagné 4000 personnes en fin de vie. Dans ces 4000 personnes, moi, il n'y en a que 3 qui, malgré tous les bons soins, ont voulu aller en Suisse. Il y a plein de personnes qui peuvent être au départ dans une demande, mais c'est insupportable, faites-moi mourir. Et bien à partir du moment où on les soulage, on les entoure, et on ne fait des choses qui ont du sens que pour eux, ils ne nous demandent plus de mourir. Personne n'a envie de mourir, même les grands malades. C'est les conditions du mourir qui font qu'on a envie de mourir. Et quelque part là, on va réintroduire la possibilité de donner la mort de la main des soignants. C'est catastrophique.
Jacques Buffière a accompagné son mari Nicolas en fin de vie. Il répond à Claude Grange.
C'est la position de ce médecin, c'est pas la position de tous les médecins. Et on peut avoir des clauses de conscience et ça me paraît légitime qu'un médecin qui ne veut pas faire ça ne le fasse pas. Je rappelle quand même que dans la France entière, actuellement, des médecins, sans le dire, avec l'accord de la famille, osent cet acte comme avant 1974, des médecins pratiquaient des avortements sur des femmes. Et c'est cette hypocrisie qu'on a connue sur l'avortement, à laquelle il faut mettre fin désormais.
Et comme pour l'avortement, certains malades décident d'aller à l'étranger où cette pratique est autorisée, un choix réservé à ceux qui en ont les moyens.
Reportage de Laurence Théo à réécouter quand vous le voulez sur l'application RFI Pure Radio. Vous y retrouvez toutes nos informations. Vous restez avec nous dans quelques secondes maintenant. Édition spéciale en direct de Roumanie avec nos équipes sur place dans les studios de RFI à Bucarest.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
C'est l'un des maîtres de la rumba congolaise. Son parcours et les textes de ses chansons sont au cœur de l'ouvrage intitulé « Mi-ange, mi-démon, héritier Ouattara » et de passage pour un concert au Dôme de Paris après son dernier album « Le chemin de la gloire ». Il sera avec nous et en live sur RFI.
Sur le Pont des Arts.
Avec la compagnie Corsair.
Du lundi au vendredi à 15h10 TU sur RFI.